voulu vous proposer comme sujet un texte que nous connaissons tous bien. Ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, que nous avons lu à l'instant, qui parle de la lumière et du sel. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, dans notre Église, et je parle au niveau mondial, mais c'est aussi sans doute le cas dans notre fédération, nous connaissons des tensions intérieures, qui malheureusement ne semblent pas se réduire. Et bien sûr, il y a plusieurs sujets de discorde, plusieurs sujets de désaccord, voire plus. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas l'objet de cette prédication, mais ces tensions créent parfois, souvent aussi, des clans dans les communautés, dans les églises. Et on a ceux qui sont les tenants d'une certaine direction et puis les autres qui sont plutôt pour une autre orientation. Et on qualifie les uns de libéraux et puis les autres de conservateurs. Comme je le disais, mon but, ce n'est pas de faire le recensement de tous ces problèmes, de toutes ces tensions, mais non plus d'apporter une réponse définitive à tous les problèmes ou toutes les questions qui peuvent se poser. Mais ma réflexion de ce matin, c'est plutôt nous aider à essayer de voir quels peuvent être les problèmes sous-jacents à ces oppositions, à ces difficultés de dialogue. Et peut-être ainsi, nous pourrons dégager quelques clés qui nous permettront de, au mieux, mieux comprendre l'autre, ou pour le moins, davantage l'accepter. Et il me semble que la parole de Dieu a des pistes à nous proposer, des pistes utiles de réflexion qui peuvent nous permettre de mieux vivre ensemble, en tant que frères et sœurs. Tout en étant fidèles aussi à l'appel que Dieu a fait à chacun d'entre nous. Et un appel, et un appel que je veux qualifier de particulier, puisque Dieu appelle chacun de nous particulièrement, selon les dons qu'il a mis en nous, pour que nous puissions utiliser ces dons, ses capacités pour son service et pour la mission également. Et nous verrons que les tensions qui peuvent traverser notre Église ne sont pas le fait simplement d'aujourd'hui, de notre époque, mais on peut remonter aussi loin qu'au temps de l'Église primitive et voir aussi ce type de tensions, de difficultés à communiquer, de désaccords parfois même sur une vision de l'Église. Aussi, ces tensions et ces difficultés ne doivent pas nous empêcher d'avancer et d'avancer selon l'appel que nous avons reçu de Dieu. La réflexion de ce matin s'inspire particulièrement d'un livre de John Paul Young, peut-être que certains le connaissent, qui s'appelle « L'évangile éternel dans un monde en mutation ». Et je vous propose donc, sans autre, de reprendre le texte de référence de ce matin, de Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Nous n'allons pas le relire, il est bien connu. Mais dans ce texte sont décrits deux approches, deux types principaux de ministère. Celui de la lumière et celui du sel. Jésus compare les croyants à la lumière et au sel. En apparence, rien de bien étonnant ou surprenant dans ce texte. Simplement, quand on y regarde de plus près, nous voyons plusieurs choses qui nous interpellent. Tout d'abord, cette lumière, on pourrait la représenter comme un phare. Un phare qui peut être aussi présenté sous la forme d'une forteresse. Le texte nous parle aussi d'une ville qui est placée en haute montagne. Et ce phare éclaire, c'est un lieu d'ailleurs peu accessible, et ce phare il va éclairer les environs autour de lui et donner une indication de l'environnement, de la route à suivre pour ceux qui sont perdus, que ce soit des marins ou pour ceux qui ont besoin d'un point de repère. Et ce phare, cette lumière, représente en fait la communauté des croyants visible, qui est attrayante, qui porte la lumière autour d'elle, au loin, sans sortir de la sécurité de la forteresse. En fait, cette communauté, elle ne cherche pas forcément à changer le monde, mais elle appelle les gens à sortir du monde pour la rejoindre, pour rentrer également dans cette forteresse, dans ce lieu. Et puis, il y a la deuxième image, celle du sel de la terre, qui montre une communauté qui va plutôt sortir hors de ses murs et qui va aller au contact, qui va même se mélanger aux autres, avec pour objectif de leur faire du bien. Et tout comme dans un plat, le sel se mélange aux aliments, eh bien, ces croyants vont se mélanger à la société de manière à ce que cette société puisse être transformée de l'intérieur. Et l'on voit en fait dans ces deux images une tension entre deux approches finalement de la foi, du christianisme. Une approche qui est plutôt, nous assumons notre rôle de croyants en diffusant la lumière, mais en restant dans un lieu sécurisé où on peut faire de temps en temps quelques sorties, mais en se dépêchant de revenir peut-être à l'intérieur de ce lieu sécurisé. Nous portons la lumière, nous assumons notre fonction, mais sans prendre de risques. Et puis, il y a une autre approche qui est celle du sel, où là, il y a davantage de risques. On sort du lieu, on sort du cadre habituel que peut être l'Église, la communauté, pour entrer en contact, je dirais même en relation avec des personnes, et pour essayer de leur apporter l'Évangile et répondre à leurs besoins, répondre à leurs soucis, et ainsi faire en sorte que ce monde soit transformé de l'intérieur. Si je devais vous poser la question, quel est le modèle traditionnel que l'Église adventiste a privilégié jusqu'à aujourd'hui? Quelle serait votre réponse? Le phare? Le sel, plutôt? Quelle serait votre position pour les autres? Quels sont ceux qui pensent que ce serait plutôt le phare? Levez la main, je vois des mains timides. Ok. Et quels sont ceux qui pensent que ce serait plutôt le sel? Ok. Alors, il me semble que l'approche que l'Église adventiste a plutôt privilégiée, il me semble que c'est plutôt celle du phare, c'est-à-dire une approche où, bien sûr, on fait de l'évangélisation, on est attaché à la mission, mais, vous savez, avec cette notion de ne pas se mélanger avec le monde, au risque de se perdre. Cette notion, elle a été présente dans toute mon enfance, et elle est encore présente aujourd'hui dans beaucoup d'esprits. Et ce n'est pas une notion qui... Je ne suis pas en train de dire qu'en fait, ces deux notions, ces deux aspects sont... doivent s'opposer dans le sens où c'est soit l'un soit l'autre. Ces deux notions dont je parle ce matin sont complémentaires. On va y revenir dans un instant, mais ça a été l'approche en fait traditionnelle de l'Église adventiste. Pendant des années, nous avons voulu faire des campagnes d'évangélisation, des conférences, en allant au contact des gens, mais de manière limitée, de manière à partir d'un podium. Sans véritablement entrer en relation avec les personnes. Et cette méthode a obtenu des résultats, de très bons résultats, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il semble que cette approche semble moins performante, en tout cas pour parler de manière très financière rentable. En tout cas, elle n'apporte pas autant de résultats que par le passé. Par contre, ce que l'on note, c'est que cette méthode, elle n'apporte pas de résultats que par le passé, principalement ici, dans les pays occidentaux, dans les pays d'Europe, dans les pays de l'Occident. Dans le reste du monde, cette méthode, elle semble encore bien marcher. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays du monde. Par contre, on se rend compte que dans nos pays où la sécularisation prédomine, eh bien, il faut développer une autre approche. Et sans doute que la méthode du sel est peut-être une approche qui pourrait donner davantage de succès. Et sans doute que là, nous avons, en tant que communauté, en tant qu'église adventiste, un défi majeur. C'est de passer d'une habitude qui était d'une habitude traditionnelle à faire l'évangélisation en invitant les gens à sortir du monde pour qu'ils rejoignent notre communauté, à faire cette révolution qui nous amènerait à sortir de nos murs davantage, à entrer en relation davantage avec les gens qui sont autour de nous, de manière à ce que nous puissions eh bien, transformer ce monde, cette société de l'intérieur. Et ce que je dis là n'est pas quelque chose qui se ferait sans risque. Parce que le texte nous le dit bien, verset 13, « Si le sel perd sa saveur, comment va-t-on la lui rendre ?» C'est quelque chose qui demande une consécration et en fait qui demande simplement qu'on ait reçu un appel de Dieu particulier pour cela. Des personnes qui ont une sensibilité plutôt pour être, entre guillemets, un phare, il vaut mieux pour elles qu'elles continuent et qu'elles n'essayent pas, en fait, d'être du sel. Et inversement, des personnes qui ont plutôt la sensibilité d'être tournées vers les personnes et d'être en contact avec les personnes, eh bien, il faut qu'elles puissent aller au bout de cet engagement et essayer de témoigner de personne à personne, et pas forcément en tant que phare. C'est donc là un défi incroyablement important que doit relever notre Église, et en particulier dans nos pays, en Belgique, au Luxembourg, parce que sans cela, nous risquons de ne toucher qu'une toute petite partie de la frange de la population qui vit ici, qui habite ici. Et d'ailleurs, sans doute aussi, nous aurons des difficultés à toucher nos propres enfants qui habitent ici, qui vont grandir ici et qui vont être baignés dans la culture locale et qui auront eux aussi la sensibilité sécularisée postmoderne. Nous avons donc le choix entre deux modèles. Mais en fait, ce choix, c'est un choix qui relève plutôt de l'appel de Dieu et non pas de notre propre choix. Si Dieu nous a appelés à fonctionner plutôt selon le modèle de la forteresse, eh bien, très bien, faisons-le. Ne cherchons pas à vivre dans l'autre modèle, ou pire, à le critiquer, mais appliquons-nous plutôt à vivre en conformité avec cet appel. Et si au contraire, nous sentons appelés à vivre comme le sel dans un plat, alors n'hésitons pas non plus à nous engager selon cet appel. Mais je répète, chacune des approches est valable et respectable, mais elle a aussi ses avantages et ses inconvénients. Autant l'approche forteresse ou phare a été le modèle historique de notre Église, et encore aujourd'hui dans de nombreux endroits sur la Terre, autant l'approche du sel est nouvelle pour nous, mais répond peut-être davantage à une situation que nous vivons aujourd'hui dans nos pays, en Belgique et Luxembourg. Dans l'approche de la forteresse, comme vous voyez sur ce schéma, eh bien, les personnes sont invitées à rejoindre le phare, à rentrer dans le phare. Dans l'approche du sel, par contre, eh bien, cette invitation à sortir, à être en contact avec les gens de l'extérieur, avec les personnes, avec chaque personne. Nous allons voir dans un instant quelles sont les différences encore plus précises entre ces deux approches. Parce que l'approche traditionnelle, en fait, elle est en particulier efficace pour un monde moderne, c'est-à-dire un monde qui est le monde que nous avons vécu jusqu'au milieu du dernier siècle. Désormais, nous sommes rentrés dans un monde post-moderne avec une mentalité différente. Ce ne sera pas le sujet aujourd'hui de présenter un petit peu quelles sont cette nature, mais je viendrai tout à l'heure sur quelques aspects qui me permettront d'approcher un peu plus ce monde. Le monde postmoderne, donc, c'est une approche pour laquelle l'approche du sel permettra d'être un peu plus efficace ou qui parlera davantage en fait à la population qui nous entoure. Dans le tableau qui suit, j'ai mis en parallèle en fait, et je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous décrire un petit peu les lignes. Nous avons donc l'approche forteresse et puis l'approche sel, et puis les références bibliques qui concernent qui expliquent en fait ces deux différences. Tout d'abord, l'approche forteresse, c'est une approche publique, tandis que l'approche sel, c'est plutôt face à face, un relationnel, de personne à personne. L'approche forteresse est une vision à court terme, tandis que l'approche du sel, c'est plutôt à long terme. Et vous voyez qu'en référence biblique, nous avons le ministère de Jésus, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. L'approche forteresse, c'est selon notre idée, c'est nous qui allons dire, ou plutôt réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être pertinent avec la population. Lorsque, par exemple, on organise une conférence, c'est nous qui choisissons les thèmes. Ce n'est pas, en fait, les gens qu'on va rencontrer, forcément. Par contre, dans l'approche du sel, eh bien, on est face à des personnes, donc on va pouvoir se mettre à leur écoute et essayer de répondre plus précisément à leurs besoins ressentis. C'est ce qu'on trouve donc dans le texte de 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Dans l'approche forteresse, c'est une approche qui est centrée sur l'Église. C'est là le lieu où la communauté se retrouve, se rassemble, et c'est là le lieu aussi où nous invitons les personnes, nous les invitons à venir à l'Église, au travers de conférences, de concerts, etc. Par contre, dans l'approche du sel, elle est basée plutôt sur les relations avec le voisinage, avec nos collègues de travail, avec les camarades de classe, et c'est dans ce cadre-là que se fait le travail, principalement. Il n'y a pas forcément obligation, tout de suite, d'amener les personnes dans la communauté, dans l'Église. Nous avons l'exemple ici de Paul qui faisait des tentes et qui, donc, dans ce travail, en fait, était en contact avec différentes personnes, des clients ou des fournisseurs, et qui pouvait ainsi témoigner. L'approche forteresse, c'est une approche à sens unique. Nous allons vers les gens et nous les invitons de venir, à eux d'accepter ou pas. Dans l'approche du sel, eh bien, elle est basée sur des dons spirituels, bien sûr, mais aussi sur une multiplicité d'approches. Il y a une différente manière pour entrer en contact avec les personnes. Et puis, il y a aussi une relation à double sens. Nous mettons à l'écoute des personnes, comme je le disais tout à l'heure, et on essaie de répondre à leurs besoins. C'est ce que l'on voit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, où sont mentionnés les différents dons spirituels. L'approche forteresse est focalisée sur la conversion, tandis que celle du sel, sur la progression. Et ça, c'est une différence importante. Parce que dans l'approche forteresse, l'objectif, c'est une fois que c'est que la personne en fait puisse être baptisée, et une fois qu'elle sera baptisée, eh bien, on ne s'occupe plus d'elle, d'une certaine manière. On a gagné cette âme à Christ, et puis elle est livrée à elle-même. Dans l'approche sel, on est plutôt sur une approche de progression, c'est-à-dire que la personne, on va l'accompagner le plus loin possible. On va la prendre telle qu'elle est et essayer de l'accompagner dans son cheminement spirituel. Et ce cheminement, bien sûr, il peut continuer jusqu'au baptême, mais il peut aller au-delà, bien évidemment. Dans l'approche forteresse, l'Église est considérée comme une communauté, et l'Église, c'est souvent le bâtiment, tandis que dans l'approche sel, eh bien, on est face à un nouveau modèle de communauté. Et ce n'est plus forcément le bâtiment, le lieu, l'Église que nous représentons ici, qui est le lieu de la rencontre, mais plutôt le foyer ou le gymnase, ou un café, ou un lieu de rencontre, tout simplement, où on pourrait être en contact avec les gens d'un point de vue relationnel, personnel. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Église primitive, il n'y avait pas de lieu de culte, il n'y avait pas de bâtiment. Les gens se rencontraient, se réunissaient dans des foyers, dans des familles, dans des maisons personnelles. Et ce n'est qu'à partir du 3e ou 4e siècle qu'on a commencé à construire des églises comme nous le connaissons aujourd'hui, des lieux de culte où les croyants se réunissaient. Dans l'approche forteresse, la communauté, le croyant, est sous le contrôle de l'Église. C'est elle qui va définir le fonctionnement des choses. Alors que dans l'approche celle, eh bien, c'est vraiment Dieu, on le souhaite, qui prend le contrôle davantage que l'organisation, l'institution de l'Église. Et le texte de référence par rapport à cela est 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 7. Et je propose de lire ne serait-ce que ce texte qui me semble important. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 7. Corinthiens 3, versets 5 à 7. Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. On a donc de personnes qui sont chacune assignées à une fonction et qui essaient d'exercer cette fonction, cet appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu, Apollos d'un côté et Paul de l'autre. Et puis, dernier élément par rapport à ce tableau, l'approche forteresse est une approche exclusive. Il y a nous et les autres, les croyants et le monde. Dans l'approche celle, c'est une approche davantage inclusive qui cherche en fait à intégrer les personnes pour pouvoir justement être en relation avec elles et travailler avec elles, les faire grandir dans l'accompagnement spirituel. Comme je l'indiquais, donc, l'approche celle a rarement été notre point fort. D'ailleurs, quelqu'un me disait cette semaine cette phrase, « Si vous voulez apprendre à louer Dieu, allez chez les évangéliques. » Si vous voulez apprendre à prier, allez chez les pentecôtistes. Si vous voulez apprendre à servir, allez chez l'armée du salut. Et si vous voulez apprendre à connaître la Bible, allez chez les adventistes. Alors, cette vision est un petit peu caricaturale, mais elle dit bien, en fait, que chaque communauté, et la nôtre aussi, a sa spécialité. Cette spécialité, qui est la connaissance de la Bible, ne répond que très peu, finalement, aux attentes de la population. Lorsqu'on vient avec la parole de Dieu devant n'importe qui, son voisin ou son collègue de travail, la première chose, la première action qu'on va avoir, c'est le rejet. « Ah non, non, ça ne m'intéresse pas. » Et nous avons besoin de révolutionner un petit peu notre approche par rapport à cela, de manière à être plus à l'écoute des personnes avec lesquelles nous sommes en contact pour pouvoir leur apporter l'Évangile. Ce matin, dans le peu de temps qui me reste, j'aimerais voir avec vous cette approche qu'on peut appeler en fait approche relationnelle. J'aurais pu vous citez quelques exemples de tensions dans la Bible et peut-être le faire très rapidement avant de passer en fait à une approche un peu plus explication en fait un peu plus importante sur l'approche relationnelle. Vous savez sans doute que dans la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, il y avait des tensions entre différents personnages de la Bible, et une des tensions les plus parlantes par rapport à ce sujet de différence, de perception, de l'approche missionnaire, c'est celle qu'il y avait entre Jacques, d'un côté, et Paul. Jacques était un des apôtres, Paul également, Jacques était un des disciples de Jésus. Et Jacques, lorsqu'il a été confronté en fait aux situations de la mission, c'était quelqu'un qui était resté à Jérusalem, alors que l'ensemble des croyants, ou beaucoup de croyants, pas l'ensemble, mais beaucoup de croyants étaient partis. Philippe, par exemple, avait quitté la région pour aller évangéliser au loin. Et Jacques, dans Actes chapitre 21, dit une chose intéressante lorsqu'il rencontre Paul. Je vous invite à prendre ce texte, parce qu'il illustre assez bien, en fait, les différences de vision qu'il y avait entre Jacques et Paul, même si ils se respectaient mutuellement. Jacques chapitre 21, verset 20. Jacques et l'ensemble des frères qui sont à Jérusalem disent à Paul, « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants. Tous ont une passion jalouse pour la loi. » Dans ce texte, Jacques et les frères de la communauté de Jérusalem mettent en avant le fait que des milliers de Juifs se sont convertis et tous sont très attachés à la loi. Tous sont très attachés à ce qui a fait en fait l'attachement historique des croyants juifs au judaïsme. Et alors même qu'ils sont convertis au christianisme, ils sont restés très attachés à la loi de Moïse. Et lorsqu'on voit l'approche de Paul dans un autre texte qui se trouve dans Galates, chapitre 2, Galates chapitre 2, à partir du verset 1er, je n'ai qu'une partie du texte. Nous irons peut-être plutôt à partir du verset. À partir du verset 3. Galates chapitre 2. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Tout cela à cause des faux frères, des intrus qui s'étaient introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. À cela, nous n'avons pas cédé un seul instant. Nous ne nous sommes pas soumis afin que la vérité de la bonne nouvelle demeure pour vous. Quant à ceux qui étaient considérés comme des gens importants, ce qu'ils étaient autrefois m'est bien égal, Dieu n'est pas partial, ces gens considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils ont vu que la bonne nouvelle m'avait été confiée pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui avait été à l'œuvre en Pierre pour l'apostolat auprès des circoncis avait été aussi à l'œuvre en moi auprès des non-juifs. Lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion. Nous irions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. Ce que Paul décrit ici, c'est exactement l'opposé de ce que l'on disait à l'instant avec les propos qui avaient été tenus à Jérusalem. Paul défend et met en avant en fait un croyant grec, Tite, qui n'avait pas été forcé de se circoncire. Et Paul a insisté pour que ce ne soit pas le cas, parce que Paul voulait se mettre à l'écoute des non-juifs, à l'écoute de ces populations avec lesquelles il était en contact régulièrement. Lui qui était parti, qui était sorti de Jérusalem, alors que c'était un juif particulièrement rigoureux, conservateur au départ, il avait fait ce choix, envoyé par Dieu, d'aller au loin, vers les païens, pour leur apporter la bonne nouvelle. Tandis que dans le même temps, Jacques, lui, restait à Jérusalem pour prêcher aux juifs. J'aimerais, continuer ou proposer une réflexion particulière sur, sur cet aspect sur lequel nous devons travailler, sur cet aspect qui représente un défi, comment être le sel de la terre, un peu plus, en tout cas pour ceux qui sont appelés à cela. Et je disais tout à l'heure que cette approche nécessite vraiment une implication relationnelle très forte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cela va demander du temps, cela va demander de l'investissement, et ce n'est pas quelque chose, comme je l'indiquais sur le tableau tout à l'heure, qui se fait sur une courte durée. C'est une vision à long terme qu'il faut avoir. Et ce n'est que comme cela que l'on pourra avoir des résultats. Mais dans la société dans laquelle nous vivons, la société postmoderne, dans un environnement séculier, nous n'avons pas d'autre piste que celle-là. C'est en fait la meilleure des pistes pour pouvoir atteindre les personnes qui nous entourent. Dans son livre, Jan Polyen parle de cette étape, et je voudrais très rapidement vous les présenter, parce que ces sept étapes montrent en fait ce sont sept étapes qui décrivent la relation amicale. Elles décrivent en fait différents niveaux de relation amicale et qui nous permettent d'accroître la relation, l'intimité même que l'on peut avoir avec une personne. Et pour passer à chacune des étapes suivantes, il est nécessaire que les deux interlocuteurs se mettent d'accord de manière implicite ou explicite, c'est-à-dire sous-entendue ou de manière claire, sur le fait de passer à l'étape supérieure. Alors bien sûr, ça ne se fait pas, on va passer à l'étape, mais c'est quelque chose qui doit se faire en douceur, d'un commun accord. S'il y a un décalage entre les deux, on risque d'être bloqué en fait à l'étape inférieure. Mais pour pouvoir avancer dans la relation, il faut bien sûr passer d'une étape à l'autre et ainsi grandir dans une relation de plus en plus transparente, je dirais. Quelles sont ces sept étapes ? Alors, je vais passer ces éléments et je vais directement quelques éléments pour être un sel efficace. Tout d'abord, il y a la prise de contact. Cette première étape, c'est une étape en fait très superficielle. Dans cette étape, on se contente d'aborder des sujets qui sont très peu engageants, très peu personnels. Cette étape ne représente absolument aucun risque dans la relation. On va parler par exemple du beau temps ou de choses qui n'ont absolument aucun impact personnel sur sa vie propre ou sur celle de l'autre. On ne sait pas d'ailleurs si on pourra passer à une étape supérieure lorsqu'on est à ce niveau-là. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que celui qui veut témoigner de sa foi, qui aimerait partager sa foi, lui aimerait qu'on passe à une étape supérieure. Donc, il peut avoir la tentation de tirer un petit peu l'autre, de manière peut-être prématurée, vers une étape supérieure, ce qui peut déjà poser peut-être un souci dans la relation. Donc une première étape, en fait. Nous avons ensuite une deuxième étape, je vais peut-être juste les mentionner en toutes, échange de faits et de récits. Troisième étape, les opinions et les jugements. Ensuite, nous avons en quatrième étape, le partage des sentiments. Cinquième étape, présenter, avouer ses échecs et ses erreurs. Sixième étape, la transparence. Et puis, la septième étape, l'intimité totale, l'intimité absolue. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je reprends la description de chacune de ces étapes. Donc, la prise de contact, je l'ai mentionné. Dans la deuxième étape, c'est en fait une étape où on fait des échanges de faits, de récits. On parle de choses qui nous intéressent, mais qui ne sont pas très personnelles. Enfin, qui sont personnelles, mais pas privées, en fait, pour être précis. Et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir découvrir les besoins ressentis de la personne avec laquelle on est en relation. C'est-à-dire ce qu'elle vit, ce qu'elle pense. Et à partir de là, le croyant va lui essayer de chercher des points de contact avec l'autre, des points dans lesquels il peut se retrouver, quelles sont ses activités, ses passions, ses hobbies, etc., pour essayer de créer une relation qui pourra peut-être perdurer dans le temps. Donc, un niveau de relation où on essaye d'établir des points de contact. Ensuite, les opinions et les jugements. Et on entre ici dans une relation un peu plus proche. On peut donner ses avis, ses jugements, ses opinions sur des domaines de la société, de la politique ou des événements mondiaux. On essaye d'être sur la même longueur d'onde pour poursuivre la relation vers un niveau supérieur. Mais en général, à ce stade, on commence le plus souvent à parler de sa foi. Mais parfois, il peut déjà commencer à y avoir des décalages avec l'autre parce que, eh bien, pour l'autre, il ne semble pas peut-être prêt encore à aborder des choses qui sont très personnelles, alors que nous avons déjà commencé à le faire. Et pour l'autre, il peut y avoir un décalage et la relation peut risquer de se briser à ce moment-là, à ce niveau-là, si l'on n'est pas tout à fait attentif à où se trouve l'autre. Est-ce qu'il est véritablement à ce niveau-là des opinions, des jugements, ou est-ce qu'il est à un autre niveau? Et puis, en 4, il y a le partage des sentiments. À ce niveau-là, on a dépassé donc juste les faits et les jugements. On va être un petit peu plus vulnérable et on va partager des choses qui sont plus personnelles, plus privées, des colères, des frustrations, des joies, des bonheurs. Mais comme je le disais, on se rend plus vulnérable. Et puis aussi, à ce niveau-là, il y a le risque que la relation, l'amitié soit brisée pour différentes raisons. Et il faut savoir que, selon certaines cultures, eh bien, il peut être accepté ou pas de pouvoir s'ouvrir ou pas, selon les sujets. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi prudent par rapport à cette étape, savoir avec qui on a affaire pour éviter, dans son dialogue, de briser la relation de manière prématurée. Mais il est vrai que pour pouvoir demander à l'autre de s'ouvrir, de s'attacher à la parole, il faut nous-mêmes qu'on soit en mesure de s'ouvrir. On ne peut pas demander à quelqu'un de s'ouvrir et de découvrir, et d'avouer qu'il s'intéresse à la parole, qu'il veut découvrir Dieu, si nous-mêmes nous ne faisons pas ce pas vis-à-vis aussi de cette personne. Il faut qu'il y ait en fait un pas mutuel qui soit fait, de manière à ce que l'autre ne sente pas être le seul à s'ouvrir alors qu'en face il y a une fermeture. L'étape 5, c'est une étape où l'on parle de ses échecs et de ses erreurs. On est en mesure de le faire parce qu'on est suffisamment en confiance pour le faire. Et on sait combien il est important pour quelqu'un lorsqu'il doit parler de sa situation, lorsqu'il doit avouer simplement je me suis trompé, eh bien c'est quelque chose qui demande un certain niveau de confiance au niveau de la relation. Et si on se rend compte qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, c'est qu'effectivement on est encore à un niveau inférieur. Et puis, il y a l'étape 6, qui est la transparence, où là, on rentre dans une grande proximité relationnelle. On est presque dans un... En fait, toutes nos faiblesses sont accessibles à l'autre. Et là, l'autre a parfois même un certain contrôle sur notre vie. Et si on se rend compte qu'il y a l'autre, ou soi-même, on est dans une position défensive, ça veut dire que peut-être on n'est pas encore tout à fait dans cette étape-là, qu'on est à l'étape précédente, voire avant encore. Et dans ce cas-là, il faut patiemment reconstruire, retravailler pour reconstruire une relation. Et puis, il y a l'intimité totale, où il n'y a plus de secret l'un pour l'autre. Et on retrouve cet aspect en particulier dans les amitiés qui sont profondes, ou alors dans le cadre du mariage. Alors, j'aimerais vous poser deux questions. Très rapidement, et peut-être que vous pouvez aussi répondre en levant la main. dans ce que vous vivez, dans votre communauté, ici à Woluwe, à quel niveau vous situez-vous? À quel niveau situez-vous les relations que vous avez entre frères et sœurs? Est-ce au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, 5 ou 6 ou 7? Est-ce que vous avez une idée déjà de cela? Est-ce que vous pourriez définir cela? Quels sont ceux qui sont au niveau 1? D'accord? Quels sont ceux qui sont au niveau 2? Quels sont ceux qui sont au niveau 3? Niveau 3, niveau des partages d'opinions et jugements avec les frères et sœurs. Quels sont ceux qui sont plutôt au niveau du partage des sentiments avec les frères et sœurs, c'est-à-dire le niveau 4? Ok, quelques-uns. Et ceux qui pensent être plutôt au niveau, ils sont en mesure de partager leurs échecs et leurs erreurs avec les frères et sœurs, sans gêne ou sans risquer d'être... Ok, encore quelques-uns. Ceux qui pensent être au niveau 6, la transparence. Oui. Et ceux qui pensent qu'ils ont, avec l'ensemble de leurs frères et sœurs, une amitié profonde. Au niveau 7, l'intimité totale. Ah, quelques personnes quand même. D'accord. Ok. Deuxième question. Au vu de ces étapes que vous voyez sur l'écran, quelles sont selon vous les étapes à partir desquelles une personne va pouvoir s'engager, se convertir? À quel niveau relationnel pourrait se passer en fait la conversion? On parle de manière générale, bien sûr. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, mais selon vous, à quel niveau? Quels sont ceux qui pensent que c'est au niveau 1? Personne. Au niveau 2? Personne. Niveau 3? Une main. Niveau 4? Partage des sentiments. Ok. Niveau 5? Quelques mains. Niveau 6? Ok. Et niveau 7? Ok. Alors, je crois que pour une personne qui se convertit, il me semble que le niveau le plus évident où elle va se convertir, c'est le niveau 5 dans lequel elle va être en mesure de reconnaître que sa vie, elle s'est détrompée et que sa vie, en fait, doit prendre un nouveau chemin. Et lorsque vous entendez cela, vous comprenez que il faut avoir un certain niveau de confiance pour pouvoir le faire. Chacun de nous, lorsqu'on est face à une personne, selon qu'on la connaît ou qu'on ne la connaît pas, on va pouvoir plus facilement ou pas avouer nos erreurs ou les fautes qu'on a pu commettre. Et c'est la même chose aussi pour une personne qui se convertit. Si elle n'est pas suffisamment en confiance, elle ne pourra pas faire cette démarche de reconnaître qu'il faut qu'elle change de chemin, qu'elle reprenne une autre route, qu'elle suive la voie du Seigneur. Et vous voyez que si nous-mêmes, dans notre communauté, nous sommes dans nos relations les uns avec les autres au niveau 1, en fait tous les niveaux qui sont inférieurs à 5, ça va être difficile pour que la personne avec laquelle on va être en contact puisse arriver à ce niveau qui va lui permettre de s'engager avec le Seigneur. C'est donc que nous avons aussi, nous-mêmes, dans notre relation les uns avec les autres, à faire un travail de manière à ce que nous puissions être une communauté où les gens puissent s'ouvrir sans risquer d'être jugés, sans risquer d'être condamnés, mais que ce soit un lieu où on puisse le faire en toute confiance, où on n'est pas là pour se, entre guillemets, tirer dessus, mais on est plutôt là pour s'encourager. Si quelqu'un est tombé, eh bien on va essayer d'encourager pour le relever et pour qu'il puisse repartir. Plutôt que de le pointer du doigt parce qu'il a fauté de telle ou telle manière. Et vous voyez combien cet aspect de la confiance est important pour que notre communauté puisse grandir, pour que notre communauté puisse aussi accueillir des hommes et des femmes qui seraient désireux de découvrir Dieu. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps est bien avancé. Voilà les deux questions que j'ai posées tout à l'heure. Je voudrais arriver à une conclusion. Nous l'avons vu, il y a deux types d'approches. L'approche forteresse ou phare, et puis celle du sel, avec chacune des forces et des faiblesses. Dans notre société d'aujourd'hui, nous avons vu qu'elle est plus interpellée par le relationnel, par le contact personnel. Et notre approche traditionnelle a plutôt été une approche à distance, l'évangélisation à distance, du haut d'un pupitre, pour des conférences ou même des concerts, mais pas assez, en fait, au contact. Mais c'est vrai que cette approche du sel présente des risques, et elle n'est pas donnée à tout le monde non plus. Et elle demande qu'on le fasse par rapport à un appel qu'on a reçu, et non pas simplement par rapport à notre propre désir. Parce que sinon, on risque de perdre notre saveur, comme c'est indiqué dans le texte de Matthieu 5. Donc, à ceux qui ont reçu cet appel, eh bien, ils sont invités vraiment à s'engager, parce que c'est eux qui vont pouvoir permettre à l'Église, notre Église, ici dans ce pays, dans ces pays dans lesquels notre fédération est représentée, de pouvoir avancer, de pouvoir permettre que les hommes et les femmes se tournent vers Dieu. Et c'est véritablement un défi. Il faut une révolution dans notre manière de penser. Et ce défi, il doit se faire en collaboration les uns avec les autres. Ceux qui portent la lumière doivent continuer à le faire, mais savoir respecter ceux qui veulent être du sel. Et ceux qui sont du sel, qui veulent être du sel, doivent pouvoir aussi respecter ceux qui portent la lumière. Sans cela, nous ne pourrons pas avancer, et notre communauté ne pourra pas accueillir les hommes et les femmes qui sont désireux de connaître notre Dieu et de s'engager avec lui. Chers frères et sœurs, le problème nous est posé. Je ne sais pas ce que vous avez décidé dans votre âme et conscience de faire. Où est-ce que vous êtes par rapport à ces deux images et qu'est-ce que vous souhaitez faire? Mais je souhaite qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions continuer à méditer, à réfléchir et continuer à répondre à cet appel que Dieu nous lance, que Dieu nous fait, que ce soit comme étant une lumière, un phare, ou que ce soit comme étant le sel de la terre. Et si nous le faisons en nous respectant mutuellement, alors nous pouvons construire, alors nous pouvons avancer, et l'Église pourra grandir. C'est ma prière pour chacun d'entre nous et pour notre Église. Amen.